Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous lis une prière de Raoul Follereaux. Seigneur, apprenez-nous à ne plus nous aimer, à ne plus nous contenter d'aimer les autres, d'aimer ceux que nous aimons. Seigneur, apprenez-nous à ne penser qu'aux autres, à aimer ceux d'abord qui ne sont pas aimés. Seigneur, faites-nous mal avec la souffrance des autres. Seigneur, donnez-nous la grâce de réaliser qu'à chaque minute de notre vie heureuse et par vous protégée, il y a des millions d'êtres humains qui sont vos fils et qui meurent de faim et qui n'ont pas mérité de mourir de froid. Seigneur, ayez pitié de tous les pauvres gens du monde. Ayez pitié des lépreux auxquels vous avez tant souri jadis sur cette terre, des millions de lépreux qui tendent vers votre miséricorde leurs mains sans doigts, leurs bras sans mains. Et pardonnez-nous de les avoir trop longtemps, par peur honteuse, abandonnés. Seigneur, ne permettez plus que nous soyons heureux tout seuls. Donnez-nous l'angoisse de la misère universelle et délivrez-nous de nous-mêmes, si telle est votre volonté. Voilà une prière pour tous ceux dont nous faisons sans doute parler, qui, ayant beaucoup reçu, pour que nous trouvions la joie en donnant davantage et en nous donnant nous-mêmes. Avant de commencer, on m'a posé la dernière fois une question intéressante à laquelle je ne vais pas répondre aujourd'hui. La question, c'était, puisqu'on avait abordé le problème de la souffrance, que penser de tous ces mouvements qui pensent que tous les problèmes peuvent se régler si on prie, si on s'abandonne, si on fait confiance. Donc je compte y répondre, parce que c'est une question qui me paraît intéressante et importante, lorsque nous aborderons « Heureux les cœurs purs » et j'y associerai une autre béatitude, « Heureux ceux qui pleurent ». Et donc à ce moment-là, je répondrai à cette question. Aujourd'hui, la béatitude dont nous allons parler, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Lors de notre premier entretien le mois dernier, nous avons fait une réflexion introductive sur le thème du bonheur et nous avons donné quelques indications générales sur les béatitudes. Et aujourd'hui, dans cette introduction, je voudrais vous donner quelques remarques plus particulières, plus détaillées sur les béatitudes, dont nous allons maintenant commencer l'étude, béatitude par béatitude. Quelquefois, j'en regrouperai deux. Vous savez que sur les quatre évangélistes, il y en a deux qui rapportent les béatitudes, saint Matthieu et saint Luc. Dans une vision qu'on peut dire peut-être plus spirituelle, Matthieu situe son récit sur la montagne, tandis que dans une vision plus concrète dans le quotidien de notre vie, Luc rapporte les béatitudes, Jésus est redescendu dans la plaine. L'idée de la montagne, c'est aussi l'idée qu'il y a un effort à faire pour monter en haut de la montagne et que le bonheur qu'on peut connaître dans les béatitudes n'est pas un bonheur facile, qui est un bonheur qui demande des efforts de notre part et donc qui sont proportionnés à l'aboutissement que l'effort, proportionné à l'effort que nous avons, auquel nous avons consenti pour monter, pour acquérir ce bonheur. Vous savez aussi que ces béatitudes s'adressent et chez Matthieu et chez Saint-Luc devant la foule qui est ici rassemblée, comme quoi les béatitudes ne sont pas réservées à une élite spirituelle. Donc dans les deux cas, il y a la foule présente autour de Jésus. Et dans les deux cas, Saint-Matthieu dit « Jésus s'assit et ses disciples vinrent auprès de lui » et Saint-Luc dit « Alors que la foule est autour de lui, regardant ses disciples, Jésus donne les béatitudes. » Ça veut dire que si les béatitudes sont valables pour tout le monde, proposées à tous, il faut quand même être entré dans une certaine familiarité avec Jésus pour être capable de les entendre, de ne pas fuir en courant en entendant les béatitudes, et de savoir pourquoi, parce que petit à petit je me familiarise avec la personne de Jésus et avec son message, pourquoi je suis plus à même d'entendre ces béatitudes. Vous savez aussi que Saint Matthieu rapporte 8 béatitudes, que Saint Luc n'en donne que 4, et donc ces 4 sont communes aux 2, mais que Saint Luc ajoute 4 malédictions. Alors, à proprement parler, ce ne sont pas des malédictions que Jésus porterait sur les gens. Quand il dit « malheureux, vous les riches », il dit « malheureux parce que vous êtes dans cette situation, malheureux si vous ne changez pas de cette situation ». Mais ce n'est pas en soi le fait d'être riche qui provoque une malédiction de la part de Jésus. Par ailleurs, pour les lire, on ne peut pas les isoler les unes des autres. Il y a un jeu entre les béatitudes qui s'éclairent les unes les autres. Ensuite, on ne peut pas isoler les béatitudes des chapitres qui suivent. Il y a 3 chapitres qui suivent chez Saint Matthieu qu'on appelle le discours sur la montagne et dont on pourrait avoir l'impression qu'ils sont un peu comme des décrets d'application très concrets des béatitudes. Et que les chapitres 5, 6, 7 de Saint Matthieu sont des exemples très concrets d'application des béatitudes. Chez Saint Luc, ce discours est moins développé, mais il y a un discours immédiat que Jésus tient dans la plaine, qui est aussi une explication des béatitudes. Et enfin, on ne peut pas isoler les béatitudes de tout l'évangile. C'est éclairé par tout l'évangile qu'on peut mieux comprendre le sens de chaque béatitude en particulier. Et nous verrons que ces méditations que nous allons faire, des tas de versets d'évangile nous servent à éclairer les béatitudes, chacune des béatitudes. Vous savez aussi que les béatitudes ont été illustrées par la vie des saints. Spontanément, si je vous donne une béatitude, vous allez peut-être avoir un saint qui va vous venir à l'esprit en disant « celui-là, il a particulièrement essayé de vivre cette béatitude-là ». Par exemple, pour aujourd'hui, la béatitude de la pauvreté, on va penser aussitôt à saint François d'Assise. Mais en même temps, on s'aperçoit que s'ils ont choisi de vivre plus particulièrement une béatitude, ils ne se sont pas éloignés des autres et que c'est aussi en vivant les autres qu'ils ont été plus à même de s'appliquer à une en particulier. Alors, c'est aussi parce que saint François a essayé de vivre l'humilité et la douceur qu'il a pu entrer plus profondément dans cette pauvreté. Si on parle des cœurs purs, on peut penser par exemple à sainte Maria Goretti, qui a préféré perdre la vie plutôt que perdre la pureté de son corps et de son âme, mais elle a été préparée à vivre cette béatitude-là, certainement parce que dans sa vie quotidienne, sans y penser forcément, elle s'est appliquée à vivre l'esprit des béatitudes. Enfin, une dernière réflexion dans cette introduction qui nous permettra de faire un rappel important. Est-ce qu'on peut établir un parallèle entre les béatitudes dans le Nouveau Testament et les commandements dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'il y a une équivalence? Jean-Paul II explique que les béatitudes ne sont pas des commandements et que si un lien doit être fait, ce n'est pas forcément avec les 10 commandements, mais c'est avec les 2 grands commandements que nous avons entendus récemment un dimanche donnés par Jésus qui résument toute la loi et les prophètes. Ces deux grands commandements qui rappellent les 3 amours nécessaires, l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi-même. Et donc, les béatitudes sont un moyen, on l'a déjà dit lors du premier entretien, de nous aider à vivre cet amour auquel nous sommes invités et qui est l'accomplissement de notre vocation puisqu'il est inscrit dans notre cœur. Et dans ces amours, il y a l'amour de soi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir les béatitudes comme un texte qui serait un texte morbide d'amputation de l'homme où Dieu prendrait plaisir à nous demander des sacrifices qui nous réduiraient. Au contraire, ils nous sont proposés précisément comme un moyen aussi de s'aimer soi-même. Le cardinal Ratzinger fait cette remarque, il n'est pas rare que l'on présente les béatitudes comme l'antithèse néo-testamentaire du décalogue. Alors ce serait plus le prolongement, ce serait l'antithèse. Et il dit, ça n'est pas recevable non plus, puisque tout de suite après, dans le discours sur la montagne, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et donc, les béatitudes, il faut les recevoir comme un moyen d'accomplir les deux grands commandements qui résument tout l'Ancien Testament et aussi l'enseignement de Jésus, l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi. Et parce que avec Jésus, nous sommes dans l'économie de la grâce, il ne faut jamais perdre de vue que si le message de l'Évangile nous paraît difficile, Jésus ne nous le donne jamais en nous disant « Voilà, je vous donne ça, maintenant débrouillez-vous, moi je m'en vais. » Il nous donne la grâce qui nous permet de vivre ce qu'il nous demande de vivre. Et cette nouveauté, c'est être rendu capable d'aimer comme Dieu aime. Donc des créatures peuvent aimer comme le Créateur aime. Enfin, dernière petite remarque, vous savez que toutes les béatitudes se présentent de la même façon. Il y a une première partie, heureux, cette situation qui nous paraît paradoxale. Et ensuite, comme s'il y avait une promesse qui était associée à cette première partie de la phrase, cette promesse donnant au centuple ce à quoi nous aurions renoncé dans la première partie de la phrase. Mais il est important de comprendre aussi que cette deuxième partie de la phrase n'est pas une récompense en proportion des souffrances que nous aurions vécues dans la première partie de la phrase, que les béatitudes nous sont données pour que déjà, en essayant de vivre la première partie de la phrase, nous y trouvions notre bonheur. Et on va voir maintenant, de façon très concrète, comment on peut trouver notre bonheur dans cette première béatitude, donc « Heureux les pauvres ». Première grande partie, heureux les pauvres, et je vais m'attacher plus, puisqu'il y a entre Matthieu et Luc une grande différence, plus à la béatitude telle qu'elle est rapportée par saint Matthieu. Je vous fais grâce de toutes les traductions, j'ai été voir plusieurs Bibles, il y a des traductions différentes. Il y a des différences de traduction dans la même édition. Si vous prenez par exemple la Bible de Jérusalem, j'ai eu trois Bibles, trois éditions différentes et quelquefois la traduction n'est pas la même. Je vous fais grâce du détail. Je vous signale juste que chez saint Matthieu, c'est « Heureux les pauvres de cœur » ou « Les pauvres en esprit » ou « Ceux qui ont une âme de pauvre ». Et je détaillerai un peu plus loin. Chez saint Matthieu, c'est tout simplement « Heureux vous les pauvres ». Et je vous donne juste, parce qu'elle est assez originale, la traduction de Chouraki. En marche, les humiliés du souffle, oui, le royaume des ciels est à eux. Et celle de Luc, en marche, les humiliés, oui, il est à vous le royaume d'Élohim. Mais c'est le particularisme de Chouraki. Alors, est-ce qu'il faut opposer celle de saint Matthieu et celle de saint Luc, saint Luc étant très matériel, heureux vous les pauvres, et saint Luc et saint Matthieu plus spirituel? Voilà la réponse que donne le père Cantalamessa, qui a prêché un avant et un carême au Vatican, donc devant le pape Benoît XVI en 2007. Matthieu emploie le discours indirect, heureux les pauvres. L'autre, le discours direct, heureux vous les pauvres. L'un emploie pauvre dans l'esprit, l'autre simplement pauvre. L'explication la plus plausible semble être celle qui admet une source commune dont à la fois Matthieu et Luc dépendent et qui portait simplement pauvre. Luc, préoccupé d'accentuer également la portée sociale du terme, le conserve tel quel et le renforce même en opposant « heureux vous les pauvres », le malheur à vous les riches. Matthieu, dont l'intention est correcte et catéchétique, se presse d'expliciter le sens religieux que le mot pauvre a dans la spiritualité hébraïque et dans la pensée de Jésus, en ajoutant dans l'esprit. Donc il y a une source commune, et ensuite chacun, en fonction du public auquel il s'adresse, a orienté un peu différemment sa béatitude. Évidemment, il ne faut pas prendre l'une ou l'autre, et c'est intéressant que sur cette béatitude, on ait les deux. Les deux s'éclairent l'une l'autre et aident à comprendre la richesse de cette béatitude dans son ensemble. Je vous passe une citation du pape Saint Léon. Voilà. Il y a suffisamment de passages dans l'évangile où il est question de la pauvreté matérielle pour qu'on ne retienne que la version de Saint Matthieu qui évacue un peu cette dimension de pauvreté matérielle. Mais par ailleurs, Jésus s'en prend tellement souvent aux hypocrites qui ont une attitude de façade sans rien derrière, pour qu'on reçoive aussi la béatitude de Saint Matthieu et qu'on essaye de comprendre que veut dire pauvre en esprit, pauvre de cœur, une âme de pauvre. On peut être pauvre matériellement et riche en esprit. Ce que je vais dire n'est pas une condamnation, c'est une constatation, mais il m'est arrivé de voir des SDF dans la rue qui sont par définition des pauvres, mais qui ont un instinct de possession parce qu'on leur a donné quelque chose à eux et pas aux voisins, ou parce qu'une place est meilleure qu'une autre. Voilà. Et par ailleurs, on peut vivre dans un palais et avoir un esprit de pauvreté, par exemple Saint Louis. Et on écoute ce que dit Saint François, qui dit qu'on va plus vite au ciel à partir d'une cabane qu'à partir d'un palais. Mais Dieu merci, on ne peut pas empêcher d'aller au ciel à partir d'un palais. Alors, cette béatitude de Saint Luc, à proprement parler, Jésus ne demande pas directement d'être pauvre. Il constate seulement que les pauvres, en un sens qu'il nous faut comprendre, peuvent être heureux. Et il dit « Heureux vous les pauvres ». Et c'est donc à nous qui écoutons Jésus de savoir si nous voulons entrer dans cette réflexion, de réfléchir pourquoi Jésus dit que les pauvres peuvent être heureux, alors que tout apparemment est contraire et qu'apparemment les riches sont plus heureux que les pauvres. Et s'il y a une raison pour laquelle Jésus le dit, est-ce que nous avons envie d'entrer nous dans cette pauvreté ? Gilbert Cesbron, dans un livre dont je vous ai peut-être parlé, qui s'appelle « Huit paroles pour l'éternité », je vous citerai souvent Gilbert Cesbron, il fait cette remarque très juste, mais c'est de pauvreté volontaire que traite la première béatitude et pas de n'importe quelle pauvreté. Celle-ci est une vertu et non un état. Donc c'est un choix. La sagesse populaire nous dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Donc ça irait dans le sens de la béatitude, mais quand même on n'en est pas convaincu et on n'est pas prêt d'adopter le point de vue, le conseil de Jules Romain qui dit avec beaucoup d'humour « si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le ». Donc la question est de savoir, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, si on accepte de consentir à une pauvreté plus grande pour faire l'expérience de ce bonheur que promet Jésus à cet état de vie de pauvreté, alors que l'apparence nous paraît contraire. Car le Christ ne veut pas que nous soyons misérables. La misère et la pauvreté, ça n'est pas la même chose. Je dirais même qu'il veut que nous soyons riches, mais des véritables richesses. Jésus dit dans l'Évangile, « Amassez-vous des trésors dans le ciel. » Et il veut nous mettre en garde contre des fausses richesses qui sont illusoires. « Méfiez-vous des trésors sur la terre, où la mythe et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent. » Donc ce que Jésus veut faire, c'est peut-être, en proposant cette béatitude, de nous libérer d'une illusion qui nous ferait croire que plus on amasse, plus on peut être heureux. Il y a cette phrase de saint Paul que je vous citerai plusieurs fois au cours de cet entretien. « De riche qu'il était, le Christ s'est fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir par sa pauvreté. » 2 Corinthiens 8, 9. Donc le but du Christ, c'est bien de nous enrichir et pas de nous appauvrir. On a eu il n'y a pas très longtemps cet évangile de ce monsieur qui a fait des bonnes récoltes et qui se dit, où est-ce que je vais pouvoir les stocker? J'abats tout, je construis plus grand et maintenant je vais pouvoir vivre de mes rentes. Et Jésus dit, insensé, c'est lui-même, on te redemande ton âme et ce que tu as amassé, qui l'aura? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Et donc, puisque Jésus nous propose cette pauvreté, deuxièmement, de quelle pauvreté s'agit-il? Chez saint Luc, on l'a dit, c'est une pauvreté matérielle et on va s'attacher dans un premier temps à voir cette pauvreté matérielle. Le livre des Proverbes, l'auteur du livre des Proverbes fait cette prière vers le ciel, Proverbe 30, versets 5 à 9. Éloigne de moi le mensonge et la fausseté, ne me donne ni la pauvreté ni la richesse. Accorde-moi seulement de quoi subsister, car dans l'abondance, je pourrais te renier en disant « le Seigneur n'existe pas », et dans la misère, je pourrais devenir voleur et profaner ainsi le nom de mon Dieu. Voilà, cet équilibre, pas trop parce que je risque d'oublier que Dieu existe et reposer, porter ma confiance que sur mes biens matériels, et pas trop peu parce que je risquerais soit de maudire le Seigneur, soit de devenir voleur et donc infidèle au commandement. Et étant infidèle au commandement, je manque de respect vis-à-vis du Seigneur. Donc, un juste milieu, ni trop, ni trop peu. Alors, qu'en est-il, j'ai mis entre guillemets, des grosses fortunes? Je ne sais pas ce que c'est qu'une grosse fortune, mais nous constatons aujourd'hui dans nos pays occidentaux en tout cas, mais c'est vrai aussi à l'échelle planétaire, qu'il y a un fossé qui s'accentue entre certains qui ont beaucoup et de plus en plus et d'autres qui ont de moins en moins. Ce qui pose un problème, ça n'est pas forcément la quantité d'argent qui est possédée, mais la quantité d'argent fait se poser deux questions. La première, d'abord, est-ce qu'il est bon pour moi d'avoir en soi autant d'argent? Est-ce que c'est là mon plus grand bonheur? Et deuxième question, est-ce qu'il est juste que moi j'en ai autant si à ma porte il y en a quelqu'un qui en a si peu? Le risque de se poser la question, c'est se préserver de ce risque d'être ébloui par ce que Jésus appelle l'argent trompeur et mettre sa sécurité que dans l'argent. Et on pense tout de suite à cette histoire que raconte Jésus, il ne reproche pas à l'homme riche de vivre dans des vêtements somptueux et de se nourrir de festins, de viande grasse et de vin capiteux. Il lui reproche que cet argent l'ait rendu aveugle. Il lui reproche de ne pas avoir vu l'homme nommé Lazare à sa porte, qui est en train de mourir de faim et par manque de soins. Et Jésus dit que cette méprise peut être très grave de conséquences, l'homme riche mourut et on l'enterra, voilà pour son corps, et l'évangile nous dit, son âme connut les tourments des flammes. Donc le problème n'est pas l'argent qu'il a eu, c'est qu'il n'a pas vu le pauvre à côté de lui. Donc son argent finalement ne l'a pas rendu heureux, et on en vient à la deuxième question. Est-ce qu'il est juste que moi j'en ai autant si à côté de moi on meurt de faim? Jésus tirera de cette parabole du Lazare et du mauvais riche cette conclusion. En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pas parce que Jésus n'aime pas les riches, mais parce que le riche se met dans une situation de ne pas pouvoir entrer par la porte étroite. J'ai vu un jour c'était un camp avec des jeunes, on était à la montagne, puis on fait une pause, on avait notre sac à dos, puis à un moment il y a une petite maison avec une porte étroite. Et j'ai vu, alors l'illustration parfaite de la porte étroite, celui qui voulait rentrer avait son sac à dos, et en travers il avait les piquets de tente. Et il est rentré, paf, il ne pouvait plus. Donc il n'a pu rentrer qu'en se dépossédant de son sac. Donc le problème pour cet homme, c'est est-ce que sa richesse ne l'empêche pas de passer par la porte étroite? Alors, Jésus, qui est plein de miséricorde, ajoute « Il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux » et il ajoute « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Donc le riche n'est pas condamné. Il se condamnera éventuellement lui-même selon l'attitude qu'il aura. Ce qui est vrai, et c'est contre ça que Jésus veut mettre en garde, plus un homme possède d'argent, plus son cœur risque de s'y attacher, et moins Dieu risque d'y trouver sa place. L'homme est tombé dans l'idolâtrie, que dénonce Jésus un peu plus loin, ou un peu avant, dans le discours sur la montagne. Nul ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Et on a tous remarqué que dans cet évangile, l'argent a une majuscule, ce qui veut dire « mammon ». Et donner à une autre réalité qu'à Dieu la première place dans notre cœur, c'est de l'idolâtrie. Alors, il est clair que celui qui n'a pas d'argent aspire à en avoir un minimum pour sortir de toutes les difficultés qu'entraîne le manque. Mais celui qui a, il risque souvent d'en vouloir davantage, d'entrer dans une course au toujours plus. Et la publicité, et aujourd'hui on vit dans un monde aussi qui est dans le système qui a intégré la publicité, c'est aussi un système un peu mensonger qui veut nous faire prendre pour nécessaire à notre bonheur d'acquérir un superflu que jusqu'à présent nous n'avons pas et dont nous nous sommes passés, parce que ce superflu devient nécessaire pour un bonheur qui pourrait être plus grand si je le possédais. Saint Paul écrit à son ami Timothée, « La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourments sans nombre. Pour toi, homme de Dieu, fuis tout cela. » Et surtout qu'on comprenne bien que ça n'est pas par mépris de l'argent que Jésus et que saint Paul dit ça, c'est pour nous mettre en garde contre l'obsession que ça peut prendre dans notre esprit, dans notre cœur, parce qu'on court après, qu'on en veut plus, parce qu'on est étouffé par ces biens matériels et celui-là en particulier. L'argent est un mauvais maître et un bon serviteur. Ce récit de Lazare et du mauvais riche veut garder l'auditeur vigilant à faire un bon usage de son bien, même légitimement acquis. Il est normal que certains aient plus et d'autres moins. Et il y a des métiers qui exercent, où on exerce une plus grosse responsabilité que d'autres, et il est tout à fait juste que ce soit reconnu et récompensé par un salaire. Il est sans doute inévitable que certains aient beaucoup et d'autres trop peu. Certains ont du superflu lorsque d'autres manquent du nécessaire. Mais ces trop grands écarts, dont je vous disais qu'ils vont aujourd'hui en s'accentuant, devraient être considérés comme un scandale. Et je ne fais pas du tout de lutte des classes en disant ça. J'essaye de lire l'Évangile. Et je ne peux pas lire l'Évangile en essayant de trouver une explication qui va concilier tout le monde et qui finalement va me dispenser de me convertir. Et c'est un scandale dont nos sociétés portent la responsabilité, dont nos sociétés auront à rendre compte. Et nous entretenons un climat de violence, et c'est vrai au niveau d'un pays et à l'échelle internationale. Alors, ça ne veut pas dire que moi je vais répondre à tout, j'ai une solution à tout dans cette petite salle avec mon petit cerveau, mais le problème se pose, les questions se posent. Et donc il y a une nécessité urgente pour ceux qui ont beaucoup et même trop qu'ils se tournent vers ceux qui ont trop peu. Et donc il est normal que des lois essayent de pratiquer cette justice en répartissant plus équitablement. Et de toute façon, ce que ne fera jamais la justice, il est nécessaire que notre charité nous invite à le faire. Et c'est-à-dire que même si la justice ne me le demande pas, je sois moins vigilant à cette répartition plus normale. La justice des hommes ne nous dispensera jamais des initiatives privées ou organisées. La justice ne palliera pas à tout et aura toujours besoin d'être surpassée et humanisée par la charité. Et ce sera notre honneur À nous, les disciples de Jésus, ce n'est pas notre exclusivité, mais nous avons le devoir de le faire parce que Jésus nous en fait un devoir, de vivre précisément cette charité, donner ce témoignage gratuit, puisque personne ne nous oblige à le faire, d'une répartition plus équitable. Et en revanche, si on ne fait rien, ce sera aussi un contre-témoignage. Et il me semble, après chacun est renvoyé à sa conscience et moi le premier, mais que l'Église, dans son histoire, n'a pas à rougir précisément de son histoire dans ces domaines-là. Et que dans beaucoup de domaines, l'Église a été précurseur pour susciter des élans de charité quand un nouveau problème s'est posé, pour essayer de trouver des solutions. Soit parce qu'elle a organisé un mouvement qui, soit parce qu'individuellement, des gens ont pris l'initiative. C'est appliquer le psaume « Heureux qui pense aux faibles et aux pauvres ». Et ce que les apôtres confirment dans les Actes des apôtres, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous avons dans l'évangile de ce jour, Jésus qui dit cette phrase « De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple ». Alors, le début de l'évangile d'aujourd'hui, c'était « Celui qui ne me préfère pas à son père, sa mère, sa femme, ses enfants ». Moi, je rêve que des fiancés le choisissent un jour comme évangile pour leur mariage, mais j'attends toujours, ça ne vient pas. Mais il faut effectivement qu'ils puissent entendre ça. Je dois préférer Dieu à tout, y compris à mon mari, y compris à ma femme. Je ne peux pas demander à mon mari, à ma femme, de prendre la place de Dieu dans mon cœur. Ça veut dire que je ne les aime pas de la même façon. Mais je dois préférer Dieu à tout. Que veut dire Jésus dans la conclusion de son évangile d'aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr qu'il invite tout le monde à cette pauvreté radicale qu'a choisi saint François. Pourquoi ? Parce que vous avez une famille à charge, parce que vous avez des besoins, parce que vous avez des impôts à payer, et que vous ne pouvez pas tout mettre dans un sac et donner au premier pauvre qui va se présenter, nous avons que l'embarras du choix, parce que la vie doit se continuer. Mais ce qui est vrai, c'est que nous ne devons avoir de l'attachement au sens où c'est un drame si ça disparaît, pour rien. Ce qui est vrai, c'est que quel que soit notre état, il me semble que nous avons, dans l'éducation par exemple que nous donnons à nos enfants, à intégrer cette dimension de la pauvreté. Pour réagir à un monde qui veut nous faire croire précisément que si j'ai ça, je serai plus heureux que si je ne l'ai pas. Que lorsque le dernier Harry Potter sort, il faut absolument qu'à minuit je sois en pyjama dans la rue pour aller le chercher, parce que sinon je suis un petit crétin demain à l'école parce que je n'aurai pas mon livre devant les autres. Et il y a une pression de ça, et précisément contre cette pression de ce monde, j'allais dire matérialiste, il faut qu'on développe pour soi et pour sa famille cet esprit de pauvreté. Nos enfants seront plus heureux parce qu'ils sont aimés, même s'ils ont moins de choses, que s'ils ont beaucoup de choses et que je ne sais pas très bien les aimer. Voilà. Et donc, chacun doit se dire, alors, votre argent, vous l'avez gagné honnêtement, je pense. Donc, il est à vous et vous en faites l'usage que vous voulez. Et vous n'avez pas de compte à me rendre sur l'usage que vous faites de votre argent. Mais chacun doit se poser la question, est-ce que j'ai pas un meilleur usage à faire de mon argent qu'à faire acheter ça parce que ça me fait plaisir et c'est pas mal que ça me fasse plaisir, mais il peut y avoir quelque chose aujourd'hui de plus urgent que ça. Concrètement, je saute un passage de saint Basile de Césarée qui a écrit beaucoup de textes sur la pauvreté, qui invite les riches à faire prendre conscience que le Seigneur a permis cette situation où eux sont riches à côté de quelqu'un qui est pauvre, qu'ils n'y sont pour rien, et que si le Seigneur a permis cette situation, c'est pour qu'ils soient les gérants de leur richesse, précisément pas que au niveau de leur famille, mais au niveau du voisin, c'est-à-dire de l'humanité. Mais je saute ce passage de saint Basile. Je vous lis un peu Léon Blois, 2-3 phrases de Léon Blois, alors qu'il a un style particulier, c'est un converti, donc c'est un passionné. Et il dérange parce qu'il rentre dedans. Tout riche qui ne se considère pas comme l'intendant et le domestique du pauvre est le plus infâme des voleurs et le plus lâche des fratricides. Tel est l'esprit du christianisme et la lettre même de l'Évangile. Évidence naturelle qui peut, à la rigueur, se passer de la solution du surnaturel chrétien. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ne pas trouver normal que, si moi j'ai de l'argent, il n'est pas normal que quelqu'un meure de faim à côté de moi. Et je vous lis un texte que j'ai trouvé intéressant. Il est de Armand de Bourbon, prince de Conti, qui a eu une jeunesse frivole et qui s'est converti. Et à partir du moment où il s'est converti, alors il a vraiment essayé de vivre une vie chrétienne authentique. Et il a écrit un livre, parce qu'il ne renie pas ce qu'il est, il est prince, Les devoirs des grands. Et je trouve très, très intéressant. Un grand de ce monde doit se croire encore plus obligé à l'amour du prochain qu'un autre chrétien, puisque par sa vocation, il est principalement l'homme du prochain, n'étant fait que pour lui, pour le soulager dans ses besoins, le considérer dans ses afflictions, le corriger dans ses manquements, lui rendre justice, le tirer de l'oppression, le garantir et le venger de la violence. Un grand doit savoir que tout son superflu est le patrimoine de son prochain lorsqu'il est dans l'indigence, et qu'il lui doit même de son nécessaire quand son indigence est extrême. Que ce nécessaire ne doit pas être mesuré par la cupidité, ni par l'avarice qui n'a point de borne, ni par l'exemple de ses semblables qui, pour l'ordinaire, comptent leur plaisir et le luxe de leur table, de leurs meubles, de leur équipage et de leur bâtiment au nombre des choses les plus nécessaires, mais par la raison guidée par une modestie vraiment chrétienne, qui sait trouver ce juste tempérament, qui, bien loin de le ravaler au-dessous de sa condition, le rend beaucoup plus digne de vénération et de respect, et lui donne le moyen de soulager son prochain comme il y est obligé. Oui, je peux, madame. Armand de Bourbon, merci. Prince de Conti, converti en 1655, et qui est mort en 1666, qui a écrit « Les devoirs des grands ». Le cardinal Suard, archevêque de Paris, il y a des années. Une fois qu'il s'est assuré le nécessaire et le convenable, le propriétaire doit consacrer au bien minime, au bien commun, ce qui lui reste de fortune, et non pas en partie, mais en totalité. Vous voyez, je vous lis ça avec terreur, parce que moi je n'en fais rien. Mais je me le dis à moi aussi. Et je le dis parce que je pense qu'il a raison. Je pense qu'ils ont raison. Mais l'Église a un discours équilibré et réfléchi. Par exemple, le pape Pie XI dit « Celui qui consacre les ressources les plus larges dont il dispose à développer une industrie, eh bien voilà, il va aider un certain nombre parce qu'il aura aidé cette industrie, mais il n'aura pas donné directement à celui qui est à côté de lui. » Troisièmement, dans ce grand 1, la pauvreté plus que l'égalité. Et c'est quelque chose qui me paraît très important. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a réfléchi à notre bien en fonction du pauvre qui est à côté de nous, en essayant d'équilibrer pour qu'il n'y en ait pas qui est trop peu. Et à supposer qu'on arrive à créer une égalité à peu près viable, Jésus continuerait quand même dans l'Évangile à proclamer la béatitude de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il ne nous demande pas de nous dépouiller pour arriver à une égalité, il nous demande de nous dépouiller, d'être pauvres, parce qu'il est nécessaire pour nous d'être pauvres. Parce qu'il y a ce danger permanent que nous fait courir la richesse si j'en emmagasine trop. Je vous lis un petit passage du père de Montcheuil. La pauvreté procure à l'âme la liberté par rapport à tout ce qui est inférieur au royaume. Pourquoi Jésus continue à proclamer la béatitude de la pauvreté? Parce qu'il veut pour nous rien moins que le royaume de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qui est promis, heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. C'est en vue de ce royaume que rien ne doit nous faire oublier. c'est-à-dire d'abord à tout l'ordre de choses que l'on se procure avec de l'argent. C'est-à-dire qu'il veut qu'on soit libre par rapport à ça. La richesse est blâmée par le socialisme comme étant un accaparement privé, les uns se trouvant favorisés au détriment des autres. Dans cette conception, si l'on assurait l'abondance à tous, la richesse ne serait plus néfaste. Pour le chrétien au contraire, elle resterait néfaste. Pour le chrétien, la misère ou la pauvreté des autres n'est qu'un motif de plus de se dépouiller s'il est riche. Nous devons donc prêcher la pauvreté non seulement aux riches, mais aux pauvres. Relever le peuple, ce n'est pas le mener progressivement aux abus, aux vices ou aux servitudes de la bourgeoisie. Il faut faire comprendre à tous la nécessité de la pauvreté, tout en sachant bien que tous ne l'entendront pas. Il y a une possession du monde fondée sur la contemplation qui peut être désintéressée, tandis que la possession fondée sur l'appropriation est toujours particularisante et facilement égoïste. Saint François d'Assise possède le monde infiniment plus que celui qui possède une terre et qui en tire de l'argent, par le moyen duquel il se procure toutes sortes de biens matériels. Cet homme n'arrive qu'à un niveau bien inférieur de possession du monde, et cela même risque de lui fermer tout accès au niveau supérieur. L'idée de pauvreté, nous l'avons vu, mais il est bon de le rappeler en finissant, est essentiellement liée à l'idée de libération et de liberté. L'esprit de pauvreté, partout où il triomphe, établit l'homme dans la joie. Et c'est ça qu'on recherche. Je saute. Grand 2, le Christ s'est fait pauvre. Donc on a dit être libre, mais libre en vue de quoi ? En vue de recevoir bien davantage, parce que si le Christ vient, c'est pour nous donner bien davantage, et encore plus que ce que nous avons perdu par la faute du péché de nos premiers parents. Jacques le Breton, dont je vous reparlerai peut-être tout à l'heure si je ne saute pas le paragraphe, « Tant que l'homme ne sait pas combien il est pauvre, il ne sera jamais riche de la richesse que Dieu veut lui offrir. » Saint Jean de la Croix fait cette remarque de bon sens. « Tel il va à Dieu, et tel il s'en retourne, parce qu'il a les mains embarrassées et ne peut prendre ce que Dieu lui donnait. » Prêcher la pauvreté pour nous dégager les mains, afin que nous recevions dans nos mains et dans notre cœur ce que Dieu veut nous donner, et il a envoyé son Fils pour nous le donner. De riche qu'il était, le Christ s'est fait pauvre. C'est la première partie de la phrase de saint Paul aux Corinthiens. Voilà, la richesse de Dieu, c'est d'être trois, d'être dans une communion parfaite, d'être dans un amour infini qui ne manque de rien, et le Christ, c'est la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée, il vit dans cette dépendance permanente, totale de son Père, de qui il reçoit tout, et qui fait qu'il ne manque rien, et qu'il est comblé, non pas d'avoir, mais d'être. Donc la richesse de Dieu, c'est ça. Et il ne manque rien à sa gloire, rien à son amour, rien à sa richesse, rien qu'on puisse lui apporter nous. C'est pas pour s'enrichir qu'il nous a créés, c'est pour nous enrichir, nous. Tout ce qu'a le Père est à moi, dit Jésus. Voilà, ça c'est la richesse du Christ. Il s'est fait pauvre, c'est ce grand mouvement d'abaissement que nous avons entendu hier dans la deuxième lecture. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Et il faut imaginer tout ce que ça représente comme situation de pauvreté. Lui qui, de qui tout dépend, de dépendre de tout, lui que l'espace ne peut pas contenir d'entrer dans le sein maternel, etc., etc. Donc il y a une condition de pauvreté qu'il assume en entrant dans le monde. Une pauvreté matérielle ensuite, mais qui n'est qu'une conséquence, j'allais dire, beaucoup moins importante que cette pauvreté fondamentale à laquelle il a consenti par son incarnation, c'est de ne pas avoir de lit, par exemple, au moment de sa naissance, donc il est né dans une mangeoire, c'est de ne pas avoir de pierre où reposer sa tête, etc., etc. Dépendre de notre bon vouloir. La pauvreté du Christ, qui dépend du bon vouloir de cette jeune fille de Nazareth qui va dire oui à Dieu pour qu'il puisse s'incarner, et la pauvreté du Christ qui dépend de notre mauvais vouloir. Parce que même s'il dit dans sa passion « personne ne prend ma vie, mais je la donne librement, c'est moi qui la donne », on n'était pas obligé de lui faire tout ce qu'on lui a fait. Et donc, il dépend de notre mauvais vouloir. Je saute, vous comprenez. Il se fait pauvre en se faisant mendiant de notre amour. Il quête notre amour et il mendie notre réponse. Voilà, le Fils de Dieu en est là. Et le dernier cri qu'il pousse avant de mourir, c'est « j'ai soif ». J'ai pas soif de cette éponge de vinaigre qu'on va me tendre, j'ai soif de votre réponse à vous qui êtes là au pied de la croix, d'Adam et Ève qui doit répondre et du dernier qui viendra qui doit répondre. J'ai soif de votre amour. Voilà, le Christ s'est fait, de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Deuxième partie de ce grand 2, avoir en nous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Contempler le Christ dans sa pauvreté nous apprend à tout relativiser. Alors, et les choses matérielles, et les situations. Jésus reprend Marthe parce que tu t'inquiètes pour peu de choses, une seule est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part, voilà. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, tout le reste vous sera donné par surcroît. Charles de Foucault, j'aime la pauvreté parce que Jésus l'a aimé. Ça, c'est un bon motif. Et il commente, « Mon Dieu, je ne puis concevoir l'amour sans un besoin impérieux de conformité, de ressemblance et surtout de partage de toutes les peines, de toutes les difficultés, de toutes les duretés de la vie. Être riche, à mon avis, vivre doucement de mes biens, quand vous avez été pauvre, gêné, vivant péniblement d'un dur labeur, pour moi, je ne le puis, mon Dieu, je ne puis aimer ainsi. » Une carmélite. Je n'ai pas envie d'être pauvre, j'ai envie d'être lui. Ah, moi, je trouve ça admirable. Ce qui importe, ce n'est pas de grossir le nombre des nécessiteux, mais de ressembler au Christ. Et de certains, il attend une réponse plus radicale que pour d'autres. C'est le jeune homme riche qui vient le voir. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Tu connais les commandements, mets-les en application. Je le fais. Alors, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Il y a pour cet homme-là, aujourd'hui, à cet instant-là, un enjeu dont l'Évangile nous dit qu'il n'y a pas répondu, mais on ne sait pas ce qu'il est advenu après. Il le quitta tout triste parce qu'il avait de grands biens. Voilà, un attachement trop grand à ses biens par rapport à la personne du Christ. Je saute, j'avais un commentaire de Mgr Lustiger sur le jeune homme riche. Troisième grande partie. Pardon ? Oui, parce que ce soir je dois me coucher. Oui, parce que si je veux laisser un peu de temps pour poser des questions. Enfin, pas pour que vous posiez des questions. Grand 3, heureux les pauvres de cœur. Donc, je vous rappelle les différentes traductions. On est passé maintenant à la béatitude selon saint Matthieu. Il y a les pauvres de cœur, les pauvres en esprit, ceux qui ont une âme de pauvre. J'ai essayé un petit peu de distinguer mais dans un premier temps, mais après je ne distinguerai plus. Le pauvre de cœur, c'est savoir se contenter de ce que l'on a. Sainte Thérèse d'Avila, là où nous avons de la paille, nous avons des lits. Ou bien, c'est cette attitude de Saint François d'Assise qui envoie ses frères mendier le repas d'aujourd'hui, et les frères sont revenus en n'ayant rien reçu. Donc François installe les frères autour de la table, il dit le bénédicité, et comme il n'y a rien à manger, il dit, ben maintenant nous allons rendre grâce. Voilà. Ça, c'est un cœur de pauvre. Cet état d'esprit qui se traduit chez les carmélites par le fait qu'elles n'emploient jamais le possessif personnel. Ma chambre, ma cellule, ma table, mon pain, c'est notre chambre, notre lampe, notre cellule. Voilà. C'est très significatif dans notre façon de parler. mes jeunes, mon groupe, ma paroisse, ma... Non, rien n'est à nous. Sois pauvre de ce qui te manque, saint François de Sales. Le pauvre de cœur va apprendre la gratuité. Il agit sans rien attendre en retour, sans reprocher aux autres leur ingratitude. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Donc celui qui est gratuit, celui qui va faire quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire, sans en attendre, et c'est difficile, de remerciement. La pauvreté en esprit consiste à fuir toute inquiétude pour s'en remettre à Dieu en tout. C'est entrer dans l'abandon confiant entre les mains du Père. Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Et cet abandon est d'autant plus grand qu'on se reconnaît, nous, comme étant les fils de ce Père en qui je peux faire entièrement confiance et duquel il est normal que je sois, que j'attende tout et que je sois dans cette dimension de dépendance. Par exemple, le patriarche Athénagoras, je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Enfin, une âme de pauvre apprend à se connaître et à s'aimer telle qu'elle se découvre. Et elle garde à l'esprit cette promesse de Jésus à Paul, qui voulait que Dieu le débarrasse de son écharde. Et Dieu lui dit, je ne t'en débarrasse pas, ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Donc l'âme de pauvre, c'est reconnaître que ni mes limites, ni mes faiblesses, et même mon péché, ne sont pas un obstacle pour que Dieu agisse en moi. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Est-ce une raison pour multiplier les péchés, demande saint Paul? Certes non. Voilà, quand même. J'aime bien cette remarque de Gilbert Cesbron. Je m'étonne quelquefois qu'il n'existe pas une béatitude de l'esprit d'enfance, mais c'est tout bonnement que celui-ci est l'autre face de l'esprit de pauvreté. Car l'esprit de pauvreté, c'est aussi la conscience heureuse de notre petitesse et de notre infirmité face à l'infini. Cela porte un très beau nom, frère chrétien, cela se nomme l'humilité, vertu essentiellement joyeuse. Voilà, je saute une réflexion intéressante de Louis Lavelle, qui réfléchissait sur la figure de saint François d'Assise. Si on a du temps après, je pourrais éventuellement vous lire ces paragraphes. Donc on est toujours dans le grand 3, heureux les pauvres de cœur. Premièrement, pauvreté matérielle ou pauvreté spirituelle. Deuxièmement, posséder les choses ou être possédé par elles. L'esprit de pauvreté, finalement, permet de faire face à beaucoup plus de situations que simplement celui qui est pauvre de fait matériellement. L'esprit de pauvreté, c'est Job. Sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, il a été comblé d'une fortune immense. Le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? Car celui qui a peut être attaché à rien, mais celui qui n'a rien peut être attaché à ce petit rien qui est à lui. On raconte qu'un jour le philosophe Diogène était en train de manger des lentilles pour souper. Il fut aperçu par le philosophe Aristippe, qui menait une existence confortable parce qu'il adulait le roi. Aristippe lui dit, si tu apprenais à ramper devant le roi, tu n'en serais pas à te substanter de déchets comme ces lentilles. Diogène lui répondit, si tu avais appris à te sustenter avec des lentilles, tu n'aurais pas à aduler le roi. Un sage médite au bord de la rivière. Un disciple se penche pour déposer à ses pieds deux énormes perles, gages de vénération. Le sage ouvre les yeux, soulève l'une des perles avec si peu de soin qu'elle tombe de ses mains et roule jusqu'à la rivière. Le disciple, horrifié, court à la rivière et plonge pour retrouver la perle. Cela pendant longtemps et sans succès. Finalement, épuisé, il tire le sage de sa méditation et lui demande « Toi qui as vu où elle est tombée exactement, montre-moi l'endroit et j'irai la chercher. » Le sage prend l'autre perle, la lance dans la rivière et répond « Exactement à cet endroit-là. » Posséder ou être possédé. Oui, c'est ça. Troisièmement, concrètement. Je vais vous indiquer, dans cette pauvreté en esprit, quelques points qui me sont venus. Ne pas vouloir maîtriser les choses. Et par exemple, ne pas choisir ses pauvres. On fait tous l'expérience qu'il y a des tas de formes de pauvreté différentes et qu'il y a des pauvres plus gratifiants, entre guillemets, que d'autres. Ou des pauvres qui m'embêtent plus que d'autres. Et il y a dans l'évangile qu'on a entendu il n'y a pas très très longtemps, je crois quand on voulait... faut-il payer l'impôt à César ? On aborde Jésus en lui disant « Toi qui es juste, toi qui es bon, toi qui écoutes tout le monde, toi qui ne fais exception de personne. » Je pense qu'on a là, c'est sûrement le modèle de la façon dont il faudrait qu'on reçoive les gens, sans faire exception de personne. Voilà, ne pas choisir son pauvre. Allez-y madame, je sens que, si, vous en avez trop dit, déjà. Oui, madame, mais le discernement ne devrait pas se faire sur le fait que celui-là m'est plus agréable, ou celui-là m'est plus facile, ou celui-là... Alors, je reconnais, on ne peut pas tout faire, d'abord, et il y a des domaines dans lesquels on se sent plus à l'aise que d'autres. Et je pense qu'il vaut mieux autant se donner dans un domaine où on est à l'aise. Ça, c'est vrai. Il faut choisir... Non, ben, peut-être. C'est certainement... Voilà, je ne sais pas. Qui va s'occuper des ivrognes, je pense. Voilà, je pense que la question mérite d'être posée. Et chacun répond comme il peut. Avec humour, avec réalisme, Gilbert Cesbron note, quand on choisit, et c'est notre honneur, le parti de ceux qui n'ont rien, il faut accepter qu'il n'est pas non plus d'intelligence. Et c'est pas forcément, c'est pas du mépris, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est que parmi ceux qui n'ont rien, il y en a qui vont être peut-être aussi plus cultivés que d'autres, il y en a qui seront d'abord plus agréables, il y en a qui me mettront plus en valeur, il y en a avec lesquels je vais passer un bon moment. Ma pauvreté consiste peut-être à ne pas choisir auprès de qui je vais aller. Deuxième élément, la pauvreté, c'est aussi accepter de ne pas avoir les moyens de sa générosité. C'est-à-dire que j'aimerais pouvoir dire oui à tout le monde. J'aimerais donner tout et donner à chacun qui se présente. Et je n'ai pas, peut-être je ne suis pas généreux, mais aussi très matériellement, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens de rendre visite à tout le monde parce que je n'ai pas le temps. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de ma part. Il faut que j'accepte en certaines circonstances, de devoir dire non aux gens. Vous me demandez de vous aider et je ne peux pas. Quitte à ce que les gens se disent « Ah ben il n'est pas serviable, je ne lui demanderai plus rien, il m'avait promis que... » Voilà. Ma pauvreté, c'est de ne pas être en mesure de vous satisfaire à chaque fois que vous le demandez. Alors c'est sur le plan matériel, c'est sur le plan moral, c'est sur le plan tout ce que vous voulez. Voilà. Je pense qu'il faut accepter ça aussi. Troisième domaine de pauvreté, notre temps. C'est un de nos biens les plus précieux, notre temps. Est-ce que je suis capable de donner du temps aux autres ? Il y a qui me frappe beaucoup, la parabole du bon samaritain. Cet homme-là, il a un programme pour sa journée. Il part en voyage. C'est tracé, il a fait le plan. Il n'est pas prévu qu'il y ait sur le bord de la route quelqu'un qui a été agressé. Cette personne agressée me gênera toujours parce que je n'ai jamais prévu de m'arrêter aujourd'hui parce qu'il y aura quelqu'un au bord de la route. Quand j'ai fait mon programme, il n'y avait jamais personne sur le bord de la route. Et donc ma pauvreté consiste, c'est ma capacité à m'adapter et à intégrer l'imprévu dans un programme que j'avais justement prévu sans cet imprévu. Et l'exemple du bon samaritain est remarquable parce qu'il s'arrête. Il prend soin matériellement de l'homme, il se détourne de son chemin puisqu'il va à l'auberge, ce qui n'était pas prévu, il y passe encore du temps puisqu'il y passe la nuit, Cet homme devient une préoccupation parce qu'il dit « quand je reviendrai, je te rembourserai la différence ». Voilà. La pauvreté, c'est notre capacité à intégrer ce qui va déranger mes plans, mais parce que, voilà. Je vous signale deux petits points. Mère Teresa, prix Nobel de la paix, elle dit « la peur de l'enfant, voilà l'ultime pauvreté ». Alors, c'est une pauvreté, c'est pas cette pauvreté-là qui est louée évidemment par le Christ. Cette pauvreté rend triste notre incapacité ou notre difficulté dans notre société à accueillir l'enfant. D'autant plus que Jésus, dans l'Évangile, s'est identifié à l'enfant. Quiconque accueille un de ses petits, c'est moi qui l'accueille. Et que se dire que non seulement on ne les accueille pas, mais que quand ils sont là, on ne les garde pas, je suis persuadé que c'est l'une des raisons aujourd'hui qui font que notre société est si morose et si dépressive. Je ne dis pas que toutes les situations sont faciles, mais quand aujourd'hui, dans notre seul pays, on tue par avortement 200 000 enfants par an, ça, on imagine la somme de souffrances de seins maternels abîmés, de tout ce que ça peut provoquer, et je ne juge pas les personnes, il y a une situation objective qui contribue, je pense, largement à faire que notre société soit dépressive, qu'on n'aime plus la vie, qu'on soit moins heureux. Voilà, Mère Teresa, la peur de l'enfant, voilà l'ultime pauvreté. Pie XI, j'aime bien cette formule, un berceau, c'est le sourire de Dieu. Deuxième phrase, Jacques Le Breton, qui a perdu ses yeux et ses mains voilà, parce qu'une grenade lui a explosé dans les mains, qui était croyant peut-être un peu, mais voilà. Et cette épreuve va le ramener complètement vers Dieu. Et il dit, prenant conscience de ce qu'il était avant son épreuve et de ce qu'il est après, la plus grande pauvreté, c'est de ne pas connaître le Christ. Et si nous on dit, je suis disciple de Jésus, c'est ma vie, effectivement, je consonne à ce malheur que les autres puissent ne pas connaître le Christ. Ça rejoint ce que dit Madeleine Delbrel. L'absence d'un vrai prêtre dans une vie, c'est une misère sans nom, c'est la seule misère dont on se rend moins compte à Paris parce qu'on manque moins de prêtres qu'ailleurs. Et vous verrez, l'état de la France dans 5 ans et dans 10 ans, nous en souffrons déjà et nous en souffrirons encore plus. Quatrième grande partie, c'est la deuxième partie de la Béatitude, bienheureux heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. C'est l'une des deux béatitudes qui sont formulées au présent. Pas pour l'avenir, mais pour maintenant. Le royaume des cieux, c'est le cœur de l'Évangile. Et nous prenons conscience que le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et on comprend maintenant pourquoi Jésus nous invite à faire ce choix de la pauvreté, dégager notre esprit, dégager notre cœur, puisqu'il a lui-même à se proposer. Et donc, il y a quelque chose d'instantané à se vider de nous-mêmes, ou à plus forte raison de tout ce qui est bien matériel, parce que dans le même temps, on est rempli de Dieu. C'est pas que Dieu veuille faire le vide, c'est qu'il veut le remplacer par non seulement autre chose, mais quelqu'un d'autre. Et donc je peux même concevoir que je me vide de moi-même pour être rempli du Christ. Et donc il y a une instantanéité, c'est pour ça qu'il y a une part au présent, de ce bonheur que je goûte, parce que tout, comme dit Thérèse d'Avila, ne m'apparaît plus comme rien, parce qu'en recevant le Christ, je reçois le tout. Vous ne vous appartenez pas, vous avez bel et bien été racheté. Nul d'entre vous ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même. Dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Le Christ est le Seigneur des morts et des vivants. Voilà, le royaume des cieux, c'est lui, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et pas simplement Dieu qui vient vivre parmi les hommes et qui remonte, mais Dieu qui vient vivre en chaque homme. Qui demeure en moi et moi en lui, porte beaucoup de fruits. Donc cette béatitude, c'est pour nous inviter à faire l'expérience de cette joie qu'il y a à être unis avec le Christ. Et après, on peut entendre Saint Paul, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ, la détresse, l'angoisse, la faim, le dénuement, tout cela, les tribulations, rien de tout cela, car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Et le royaume de Dieu est à la fois un don et une promesse, c'est-à-dire qu'il y a toujours une dimension d'espérance dans ce règne de Dieu qui nous est promis déjà au présent. C'est-à-dire que plus je prends conscience qu'en me vidant, je suis rempli du Christ, plus je vais vouloir continuer à me vider pour être rempli davantage et être enrichi davantage et être heureux davantage. Madeleine Delbrel, être pauvre, ce n'est pas intéressant. Tous les pauvres sont bien de cet avis. Ce qui est intéressant, c'est de posséder le royaume des cieux, mais seuls les pauvres le possèdent. Il s'agit de creuser un espace, de dévoiler un vide, de susciter un désir. Voilà pourquoi Jésus nous propose cette béatitude. Mais si l'espace n'est pas rempli, si le désir n'est pas comblé, non seulement ce que Jésus nous promet ne va pas se réaliser, mais il devient responsable de notre malheur. S'il ne satisfait pas le désir, s'il ne comble pas le vide, alors il provoque notre malheur. Mais précisément, il est en mesure de nous proposer ce programme parce qu'il sait qu'il est lui-même l'accomplissement du programme. Celui qui va satisfaire nos désirs au-delà de ce que nous désirons, qui va combler le vide au-delà de ce que nous aurons creusé. Pourquoi dans le récit de la multiplication des pains, il reste des pains ? Parce que notre faim n'est pas assez grande. Parce que Dieu donne plus que nous ne pouvons manger. Et si nous sommes heureux d'avoir mangé, nous devons, alors c'est au sens spirituel évidemment, nous devons être heureux de manger encore plus, sans courir le risque qui serait épouvantable d'épuiser la source, puisque la source est inépuisable. Il suscite la soif et il est l'eau vive, il suscite la faim et il est le pain de vie. Et ce que nous avons entendu dans l'évangile le dimanche dernier, ici en tout cas puisque c'est l'évangile que nous avons retenu, l'heure vient et c'est maintenant. Donc c'est au présent. Et en même temps, cette dimension qui est toujours à satisfaire parce que le Seigneur veut encore plus pour nous, c'est aussi la dimension d'espérance. Voilà, j'arrête, je vous lis peut-être un extrait de Bernanos. Non, j'arrête pas tout à fait. Encore quelques minutes et je vous laisse après poser des questions. Bernanos met en garde contre la lutte contre la pauvreté qui ne serait pas orientée vers le but le plus haut. Je crois, dit-il, que le Christ est venu en ce monde pour sauver nos âmes et non pas pour extirper la pauvreté de la terre, comme si elle était l'ennemi numéro un du genre humain et le pire des chancres. Les chrétiens dégénérés trouvent moins coûteuse la recette marxiste, cela les regarde. Je me permets de n'augurer rien de bon de cette sollicitude universelle pour le pauvre qui coïncide mystérieusement, dangereusement ou trop clairement avec un reniement non moins universel du pauvre des pauvres en qui toute pauvreté se divinise. Et ailleurs, je dis que les pauvres sauveront le monde et ils le sauveront sans le vouloir, ils le sauveront malgré eux, ils ne demanderont rien en échange, faute de savoir le prix du service qu'ils auront rendu. Le monde n'a plus le temps d'espérer. Ce sont les pauvres qui espèrent à sa place, exactement comme les saints aiment et expient pour nous tous. La tradition de l'espérance est entre les mains des pauvres. Jésus dans l'Évangile, cette femme vient verser son parfum de prix sur ses pieds. C'est scandaleux, on aurait quand même pu prendre cet argent et le donner aux pauvres. Et Jésus répond, les pauvres, vous les aurez toujours parmi vous, moi, vous ne m'aurez pas toujours. Et ce que cette femme vient de faire, on le répétera jusqu'à la fin des temps. Voilà. Donc, servir le pauvre, les pauvres, en oubliant le pauvre, c'est passer à côté. Et je me souviens de cette histoire qui est arrivée à Mère Teresa. Les cosmonautes qui sont allés sur la Lune avaient donné au pape Paul VI deux pierres, je crois, ou une pierre de la Lune. Et le pape Paul VI avait donné cette pierre à Mère Teresa. Mère Teresa a réfléchi à l'usage qu'elle pouvait en faire et elle a décidé de l'incruster dans la porte du tabernacle de la chapelle de Calcutta. Et on lui a fait le reproche. Enfin, cette pierre de la lune, il n'y en a pas 36, vous auriez pu en tirer des sous. Ça vous... si je commence à oublier celui que je sers, j'oublierai ensuite tous les autres. Alors, comme conclusion, Saint Vincent de Paul, qu'on surnomme le père des pauvres, aimait à dire que les pauvres sont nos maîtres. Et il ne faudrait évidemment pas qu'on s'établisse dans un mouvement à sens unique où ceux qui ont donnent, même très délicatement, à ceux qui n'ont pas. Il nous dit, le mouvement, il est dans les deux sens. Nous pouvons donner ce qui leur manque, mais nous pouvons recevoir d'eux ce qu'ils ont en abondance et qui peut-être nous manque. Le pape François a pris comme thème des JMJ de 2014, donc celles qui se sont passées dans chaque diocèse cette année, au moment du dimanche des rameaux, il leur avait donné comme thème la première béatitude aux jeunes. Il leur donne l'exemple de Saint Benoît Joseph Labre, ce saint mendiant qui a parcouru les routes, qui ne devait pas se laver beaucoup, et qui va à Rome. Et à Rome, il vit des dons des gens, donc dans une extrême pauvreté, et il était devenu le conseiller spirituel d'un grand nombre de personnes, parmi lesquelles même des nobles et des prélats. Et le pape François concluait dans sa lettre aux jeunes, « D'une certaine façon, les pauvres sont comme des maîtres pour nous. Ils nous montrent qu'une personne ne vaut pas tant par ce qu'elle possède ou par ce qu'elle a sur son compte en banque. Un pauvre, une personne privée de biens matériels, conserve toujours sa dignité. Les pauvres peuvent nous en apprendre beaucoup aussi sur l'humilité et la confiance en Dieu. » Et je suis persuadé que la pauvreté est une des armes essentielles que la Providence met à la disposition de l'Église aujourd'hui pour cette évangélisation à laquelle on est appelé. Le vieillard Siméon dit, quand on présente Jésus au temple, il parle d'un signe de contradiction. Nous, les disciples de Jésus, dans un monde qui croule et qui crève sous le... Je n'ai aucun mépris vis-à-vis des gens, mais il y a des situations qui sont celles-ci. Nous avons à être ce signe de contradiction d'un choix que nous aurons voulu, que nous aurons effectué librement, et donc qui nous permettra de témoigner qu'en faisant ce choix, nous sommes dans la joie d'une pauvreté beaucoup plus radicale. Il me semble qu'il faut que sur ces points-là, nous soyons largement en contradiction, j'allais dire en opposition avec ce que le monde nous propose. Ma joie n'est pas dans l'accumulation de biens. Mon avenir n'est pas dans les progrès de la médecine vous voyez ce que je veux dire, qui me permettra de vivre 500, 600 ans à peu près bien portant au détriment de tous ceux qu'on aura écartés parce qu'eux avaient un vice de forme au départ. Mon bonheur n'est pas là. Mon bonheur, il est dans la rencontre avec Jésus-Christ. Et si j'arrive à témoigner que précisément Jésus me suffit et que je n'ai pas besoin, moi j'aspire à vivre au ciel. Ma joie, c'est d'être au ciel. Alors sans doute parce que je suis un peu paresseux. Mais qu'on me promette de vivre 500 ans de plus ne me comble absolument pas de joie. Bon, ma joie, voilà. Et donc, plus le Christ me suffit, plus je pourrai témoigner de ça, plus mon message sera crédible. Et j'aimerais... Alors, l'Esprit Saint suscitera toujours dans l'Église les figures de sainteté qui sont nécessaires à notre époque. Comme au XIIIe siècle, l'Église ne va pas très bien, et plus tard, on a la réaction de Luther, qui a raison dans sa réaction face aux excès et au dévoiement de l'Église, mais il a eu tort dans la façon dont lui-même a réagi. Eh bien, nous avons le modèle de Saint François, qui souffre autant certainement que Luther a souffert, et qui dit « Moi, je ne vais pas réformer l'Église, Je vais me réformer moi, je vais proposer un style de vie, ceux qui le voudront choisiront ce style de vie, et il a plus fait pour l'Église que Luther qui a critiqué et qui ensuite a fini humainement un peu lamentablement. Et j'aimerais, pour terminer, comme figure de proue de cette barque de l'Église qui doit partir à l'encontre du monde, comme le pape nous le rappelle en permanence, comme figure de proue, j'aimerais cette femme dont l'Évangile ne nous donne pas le nom, qu'on surnomme la pauvre veuve, qui a donné deux petites piécettes, c'est-à-dire un don insignifiant, qu'elle n'a même pas fait pour les pauvres, qu'elle a fait pour le trésor du temple, mais elle a donné non pas son nécessaire qu'elle n'a pas, non encore moins son superflu qu'elle n'a pas, elle a donné, pardon, son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et j'aimerais que ce soit un peu cette figure de proue qui est louée par Jésus et qui nous incite à méditer sur cette béatitude de la pauvreté pour pouvoir voir comment l'intégrer chacun dans notre vie. Je finirai par cette phrase de Sainte Thérèse d'Avila: que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout. À qui possède Dieu, rien ne manque, Dieu seul suffit. Pardon, j'étais un peu long. Excusez-moi. Et encore, j'ai sauté des pages. Hein. Je ne sais pas s'il y a des questions.
C'est quand même dommage que la religion, notre religion, nous culpabilise dès qu'on a trois sous, dès qu'on a l'argent qu'on culpabilise à tout le long.
Est-ce que je vous ai culpabilisé, madame ? Maintenant, je ne voudrais pas, vous voyez, si...
Parce que je pense que ce n'est pas matériel, la pauvreté économique qui est demandée dans l'Évangile, c'est spirituel. C'est déiste.
Je pense que les deux vont ensemble, madame. Les deux vont ensemble. Et
là, on en fait, nous, en tant que pauvres humains, pauvres cadavres que nous sommes, on en fait des trucs de bon sou, de trois sous de trop.
Bah, si vous en avez trois de trop, vous pouvez les donner à ceux qui en ont trois de pas assez. Ceci dit, voilà, je pense que les deux vont ensemble et que chacun doit en conscience réfléchir à l'usage qu'il en fait. Mais effectivement, mon but, ce n'est pas de donner mauvaise conscience aux gens, c'est qu'ils soient heureux de donner. C'est saint Paul qui écrit dans une de ses lettres, je ne sais plus laquelle: Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Madame.
Est-ce que je suis la seule à trouver une ressemblance entre le cantique de Marie et les béatitudes, ce renversement du monde? Si quelqu'un avait écrit quelque chose là-dessus, je serais vraiment heureuse.
Alors certainement, quelqu'un l'a fait, madame. Alors, il y a un livre qui s'appelle Les pauvres de Yahvé, d'un prêtre qui s'appelle Gélin. Et je crois qu'à un moment dans son livre, il développe dans cet esprit de pauvreté le Magnificat. Pour être très honnête, j'avais pensé un moment, parce que ça me paraît moins évident, le parallèle entre les béatitudes et le Magnificat. Et pour le moment, je n'ai pas trouvé le temps de réfléchir pour vous donner quelque chose. Alors je me dis, soit peut-être je le réserve pour l'entretien qu'il y aura sur la Vierge Marie, puisque j'ai choisi d'en faire un « Heureuse es-tu, toi qui as cru ?» qui me permettra de parler de la Vierge Marie, peut-être du Magnificat, mais que le parallèle ait été fait, certainement il a été fait, peut-être dans ce petit livre-là.
Merci.
Ah oui, une question, là-bas au fond, il faut libérer la salle. J'ai déjà dépassé de 20 minutes.
Oui.
Bah maintenant, vous allez nous offrir un petit goûter. Oh, pardon.